Vous écoutez On lit pour vous.
Un mariage écologique pour les chats, un texte de Mégane Foy, paru le 22 décembre 2025 dans la presse. Entre la litière écolo d'EcoCat et les accessoires durables pour chats de Bloire, les affinités étaient évidentes. Tellement que les deux marques québécoises ont annoncé leur alliance en décembre 2025. Carl-Philippe Nantel, président et fondateur d'EcoCat, n'avait ironiquement pas de chat. Lorsque l'idée de concevoir une litière non polluante lui est venue à l'esprit avant la pandémie, c'était surtout pour répondre à un besoin criant écologique. « Ma première passion, c'est vraiment l'environnement », raconte à la presse Carl-Philippe Nantel, qui faisait d'abord des tests avec des amis qui avaient des chats avant d'en adopter un lui-même. À l'inverse, le nom de l'entreprise de Myriam Leblanc, Bloire, découle directement du nom de ses deux chats, Blanc et Noir. Mais c'est le même désir de créer un produit durable qui l'a animé, faute d'autres options sur le marché. Les accessoires et jouets pour chats vendus par l'entreprise depuis 2021 sont faits de coton et d'herbe à chat biologique, mais se démarquent aussi par leur esthétisme. Après quelques années en solo, à bâtir leur propre clientèle, les deux entrepreneurs qui se sont rencontrés par l'entremise d'amis communs ont décidé que le moment était parfait pour unir leurs produits. En faisant l'acquisition de Bloire le 1er décembre 2025, EcoCat et ses 6 employés bénéficient d'une nouvelle expertise. « On a vraiment des forces qui sont complémentaires », souligne Myriam Leblanc, désormais directrice produits et innovation d'EcoCat. Responsable des réseaux sociaux de l'entreprise, qui rassemble déjà une communauté de plus de 150 000 amoureux des chats, elle est dotée d'une grande créativité, estime son collègue. De son côté, la vue d'ensemble de Carl-Philippe Nantel et sa connaissance du milieu permettent le mariage idéal, croit Myriam Leblanc. Une clientèle renouvelée. La clientèle d'EcoCat, constituée d'une base de 3000 clients mensuels, est principalement située au Québec. D'abord parce qu'il existe peu d'options dans la province répondant à la fois aux critères de durabilité et d'odeur. Le nerf de la guerre, la fibre végétale utilisée. Par exemple, la litière réalisée à partir de fibres de maïs constitue une option écologique intéressante, mais elle dégage une odeur moins agréable. C'est pourquoi l'entrepreneur s'est tourné vers la litière végétale à base de résidus de coque de pois et de soya, considérés comme des déchets par l'industrie alimentaire. 4 à 5 fois plus absorbante qu'une litière traditionnelle, la litière EcoCat, dont un sac dure 30 jours en moyenne, s'avère 3 fois plus économique et 3 fois plus légère qu'une option standard, explique l'entrepreneur. EcoCat offre aussi un service de livraison aux Québécois afin que les clients puissent recevoir leur boîte mensuelle de litière dans le confort de leur maison sans qu'ils aient à y penser. J'ai tellement de souvenirs de toutes les fois où j'allais au magasin et je revenais avec une poche de litière vraiment lourde. C'est vraiment agréable de recevoir ça chez soi, souligne Myriam Leblanc. Le chiffre d'affaires d'EcoCat s'est élevé à près de 1 million de dollars en 2025. L'entreprise espère doubler ses revenus d'ici l'an prochain, puisque la clientèle de Bloire, elle, est principalement partagée entre l'Europe et les États-Unis. Ce nouvel horizon permet à l'entreprise d'explorer ses marchés sans partir de zéro, mais elle souhaite pour l'instant consolider sa présence au pays. À l'avenir, pour l'instant, la fibre végétale utilisée pour la litière d'EcoCat est produite en Asie, puisqu'aucune entreprise d'ici n'avait l'expertise. L'objectif serait de rapatrier la production ici, au Québec, explique Carl-Philippe Nantel, qui assure être en démarche de recherche et développement avec le Centre d'innovation québécois InnoFibre. Le produit est présent dans une trentaine de points de vente en vrac dans la province, une formule qui s'allie parfaitement à la mission de l'entreprise. Les deux entrepreneurs songent aussi à créer une formule de coffret où la clientèle pourrait recevoir sa litière chaque mois ainsi qu'un nouveau jouet pour son animal de compagnie. C'était « Un mariage écologique pour les chats », un texte de Mégane Foy, paru le 22 décembre 2025 dans la presse.
De plus en plus de Canadiens sont obèses. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 2 octobre 2025 dans Le Devoir. L'obésité et l'embonpoint sont en croissance dans tous les groupes d'âge parmi les adultes, montrent de nouvelles données publiées récemment par Statistique Canada. La prévalence de l'obésité augmente en particulier chez les jeunes adultes, tandis qu'elle est stable chez les enfants. De manière générale, 68% des adultes canadiens de 18 à 79 ans avaient un indice de masse corporelle, IMC, les classant en situation d'embonpoint ou d'obésité pour la période de 2022 à 2024. Cette proportion était de 60% de 2016 à 2019. Toujours entre 2022 et 2024, 40% des hommes et 30% des femmes faisaient de l'embonpoint. Si l'on combine ces personnes à celles en situation d'obésité, environ les trois quarts des hommes et les deux tiers des femmes présentaient un IMC associé à des risques accrus pour la santé. Chez les enfants âgés de 5 à 17 ans, près d'un jeune sur trois était considéré comme étant en situation d'embonpoint ou d'obésité. Cette proportion n'a pas changé de manière significative au fil du temps, indique le rapport de Statistique Canada, spécifiant cependant que cela est préoccupant étant donné qu'il y a des risques pour la santé à long terme liés à un excès de poids durant l'enfance. Le changement le plus marqué a été observé chez les personnes âgées de 18 à 39 ans. Pour les hommes, la prévalence de l'obésité est passée de 22% pour la période de 2016 à 2019 à 33% au cours de celle de 2022 à 2024. Chez les femmes, elle a bondi de 17 % à 29 %. Kaberi Dasgupta, médecin-chercheuse et professeure de médecine à l'Université McGill, a été surprise par l'ampleur de cette augmentation. Elle souligne par ailleurs que c'est plus facile de prévenir une prise de poids que de la perdre après, ce qui lui fait se demander comment on peut aider les gens qui sont désormais aux prises avec un problème de poids. Parce que c'est sûr qu'on doit toujours parler de prévention et prévenir que les enfants ne développent pas plus tard l'obésité. Mais maintenant, on a une grosse tranche de gens qui sont assez jeunes, qui ont déjà l'obésité, soulève-t-elle. Docteur Dasgupta est d'avis que les conseils diététiques et pour l'exercice devraient être couverts par le régime public afin de prévenir une autre hausse de l'obésité au sein de la population. Il faut que les gouvernements prennent ça au sérieux. Ce n'est pas suffisant de faire la collecte de données. Il faut agir sur ça, et ça va prendre des politiques assez importantes, fait valoir la spécialiste. La pandémie, un facteur unique. La pandémie est ciblée comme un facteur ayant contribué à la prise de poids. Comme chez les adultes, certaines données indiquent que la pandémie a entraîné une hausse du temps passé devant un écran et de la consommation de collations, ce qui pourrait avoir contribué à l'augmentation du surpoids chez les enfants et les jeunes, peut-on lire dans le rapport. L'impact de la COVID était peut-être plus grand que ce qu'on a pensé et ça représente un vrai défi. La COVID a vraiment donné une bonne poussée à la prévalence et là, on doit agir sur ça comme un phénomène un peu unique, soutient Dr Dasgupta, qui est également directrice du Centre de recherche évaluative en santé de l'Institut de recherche du CUSUM. Les données du rapport proviennent de l'enquête canadienne sur les mesures de la santé pour lesquelles il y a eu des mesures directes de la taille, du poids et du tour de taille. La taille et le poids ont servi à calculer l'IMC, l'indicateur le plus couramment utilisé pour évaluer l'embonpoint et l'obésité, selon le rapport. Toutefois, l'IMC est critiqué par plusieurs experts puisqu'il ne fait pas la distinction entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Les mesures ont également permis de déterminer que près de la moitié des adultes avaient un tour de taille supérieur au seuil pour l'obésité abdominale, plus de 102 cm pour les hommes et plus de 88 cm pour les femmes. On constate d'ailleurs que cette tendance est plus courante chez les femmes. La prévalence de l'obésité abdominale croît de façon constante avec l'âge. Elle concerne 31% des hommes de 18 à 39 ans contre 55% des 60 à 79 ans. Cela touche 39% des femmes du groupe plus jeune et 66% du groupe plus âgé. L'embonpoint, l'obésité et l'obésité abdominale sont associés à un risque accru de développer des maladies graves telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension, de même que certains cancers, avertit l'Organisme national de statistiques. La docteure Dasgupta est mitigée par rapport aux médicaments qui agissent sur l'obésité comme le sémaglutide. Ça va poser beaucoup de questions pour la santé publique, les médecins, pour décider quoi faire. Parce que ça concerne une bonne proportion de la population. On ne veut pas médicamenter tout le monde, mais il faut agir, plaide-t-elle, ajoutant qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les patients. C'était « De plus en plus de Canadiens sont obèses », un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 2 octobre 2025 dans Le Devoir.
Soutenir la santé mentale des jeunes familles francophones en Colombie-Britannique. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, publié le 15 janvier 2026 dans The La Source. Réseau Femmes Colombie-Britannique, en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale, propose aux parents et tuteurs d'enfants âgés de 0 à 2 ans, du 21 janvier au 11 mars, la formation en ligne intitulé « Vivre sa vie pleinement » sur le bien-être mental. Marie-Paul Berthiaume, initiative de journalisme local, journal La Source, selon le Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, les troubles de santé mentale figurent parmi les problèmes de santé les plus fréquents, affectant une mère sur cinq en fin de grossesse et durant la période postpartum. Anaïs Bénard, représentante du groupe Maman francophone de RFCB, organise des événements postpartum à l'intention des francophones de la province. Originaire de France et mère d'une fillette de 17 mois, née à Vancouver, elle met en évidence l'importance d'un accompagnement en français pendant la période postnatale. Le plus grand défi pendant le postpartum a été de gérer ma santé mentale. Le manque de sommeil, l'inconnu, la pression, tout ça pèse lourd, confie-t-elle. Et en Colombie-Britannique, les ressources gratuites sont majoritairement en anglais. Quand ça va moins bien, parler dans sa langue maternelle, ça fait toute la différence.
Selon elle, l'isolement constitue un facteur qui aggrave les symptômes de santé mentale chez plusieurs mères francophones, souvent éloignées de leur famille et de leur réseau de soutien. Et nous avons besoin d'être entourés. Être francophone en Colombie-Britannique, ça signifie souvent ne pas avoir sa famille ici. Il devient alors crucial d'avoir accès à des espaces qui permettent de se rencontrer, d'échanger et parfois même de se créer un village. Un enseignement axé sur des méthodes pratiques. Le cours « Vivre sa vie pleinement », adapté par l'Association canadienne de la santé mentale, ACSM, s'adresse à toute personne âgée de plus de 12 ans, faisant face au stress, à une baisse de morale ou à des défis de la vie quotidienne. Il se déroule sur 8 semaines, avec des séances hebdomadaires de 90 minutes. Basé sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale, la formation conçue par le psychiatre et professeur à l'Université de Glasgow, Chris Williams, vise à doter les participants d'outils pour mieux comprendre et gérer leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements au quotidien. Selon Melody Coster, gestionnaire national des cours « Vivre sa vie pleinement », bilingue, et « Enjoy your baby », en cours de traduction en français, pour l'ACSM, la période postnatale, et tout particulièrement la première année, est souvent marquée par un isolement social important. Le cours permet d'acquérir des outils pour mieux gérer certains symptômes liés au stress, etc., explique-t-elle. Grâce à sa nature collective et à son déroulement sur plusieurs semaines, le cours est un espace qui offre aux parents l'occasion de créer des liens, normaliser leurs sentiments et partager leurs défis. Elle ajoute que les deux animatrices certifiées de « Vivre sa vie pleinement » qui enseignent le cours, Claire Hodge et Marie Lacrampe, ont toutes deux participé au projet pilote « d'Enjoy Your Baby » l'an dernier et seront donc en mesure d'en utiliser les principes clés. C'était « Soutenir la santé mentale des jeunes familles francophones en Colombie-Britannique ». Un texte de Marie-Paul Berthiaume, publié le 15 janvier 2026 dans The La Source.
Pas de répit pour la disparition des milieux humides. Un texte d'Alexandre Schill paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Près de 10 ans après l'adoption de la loi censée freiner la disparition des milieux humides au Québec, l'échec semble évident. Les données fournies au Devoir par le ministère de l'Environnement démontrent que le gouvernement a accordé des milliers d'autorisations permettant de détruire ces écosystèmes essentiels tout en accumulant plus de 270 millions de dollars en dédommagement. Malgré ce pactole, les compensations sont, pour ainsi dire, inexistantes. En adoptant en juin 2017 la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec promettait non seulement, citation, de freiner la perte de milieux humides, mais aussi de viser certains gains nets, fin de citation, le tout en s'appuyant, citation, sur le principe d'aucune perte nette, fin de citation. À la lumière des plus récentes données disponibles auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, tout indique que ces engagements n'ont pas été respectés. Les informations mises à jour en novembre font ainsi état de 5361 autorisations d'empiètement sur des milieux humides, pour un total de 72,4 millions de mètres carrés, l'équivalent de 10 140 terrains de soccer de la Coupe du monde. Les données fournies ne permettent pas de distinguer s'il s'agit d'une atteinte temporaire, partielle ou permanente. Citation: notre ancien système de suivi ne nous permettait pas de faire la distinction entre les différents types d'atteintes. Fin de citation, indique le ministère responsable de la protection de ces écosystèmes naturels essentiels pour la protection de la biodiversité, la protection de l'eau et l'adaptation aux bouleversements climatiques. Espèces menacées. Le ministère de l'Environnement a toutefois été en mesure de préciser qu'entre janvier 2024 et octobre 2025, plus de 9 millions de mètres carrés ont été rayés de la carte. Ces destructions comprennent celles autorisées sur le terrain du défunt projet Northvolt en Montérégie. Avec le soutien du gouvernement Legault, l'entreprise a du même coup détruit des habitats d'espèces menacées. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas du genre. Selon les données du ministère, 716 autorisations accordées depuis 2017, citation, ont été délivrées avec un indicateur positif de présence d'espèces menacées ou vulnérables. Elles peuvent être floristiques ou fauniques. Notre suivi ne fait pas cette distinction. Fin de citation. Au lieu d'éviter de faire disparaître des milieux humides qui ont pris parfois des milliers d'années à se former, les promoteurs peuvent verser des compensations financières au gouvernement. Celles-ci doivent normalement être utilisées afin de restaurer ou recréer de nouveaux milieux humides. Depuis 2017, plus de 270 millions de dollars ont ainsi été accumulés. Or, en date du octobre 2025, à peine plus de 3,2 millions de dollars ont été dépensés pour la restauration ou la création, indique les données. Ce montant équivaut à 1,18% de la somme totale disponible. Les données semblent cependant indiquer qu'aucun projet visant à restaurer ou créer des milieux humides n'a été mené à terme. Dans le cadre du volet 1 du programme, mis en place par le gouvernement pour investir les fonds disponibles, un total de 41 projets de soutien à la réalisation d'études préalables de projets de restauration ou de création de milieux humides et hydriques sont terminés et 37 autres sont présentement en cours de réalisation. Dans le cadre du volet 2, qui doit permettre de réaliser des projets concrets, on dénombre 9 projets guillemets, en cours de réalisation, fin des guillemets, pour une superficie totale de 855 359 mètres carrés. Cela équivaut à 1,18% de la superficie des empiétements autorisés depuis l'adoption de la loi en 2017. Extrêmement préoccupant. Citation: je suis extrêmement étonné. Le programme a été mis en place en 2017 et encore aujourd'hui, aucun projet n'a été terminé. C'est extrêmement préoccupant, affirme Julie Talbot, professeure au département de géographie de l'Université de Montréal et spécialiste des impacts des activités humaines sur le fonctionnement des écosystèmes naturels, en particulier des milieux humides. Citation: l'objectif de la loi était d'arriver à zéro perte nette, mais ce qu'on voit dans les faits, ce n'est pas ça du tout. Il y a des pertes, on accumule de l'argent qui est censé servir à faire des compensations, mais concrètement, on ne le fait pas, déplore-t-elle, fin de citation. Le nombre d'autorisations et les superficies impliquées lui semblent aussi beaucoup trop élevés pour préserver les fonctions écosystémiques de ces milieux. Citation: nous sommes toujours dans une zone famélique, fin de citation, en matière de restauration et de création, résume pour sa part Stéphanie Pellerin, professeur associé au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal, chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale et botanistique au Jardin botanique de Montréal. Les données financières du ministère de l'Environnement démontrent selon elle, que la législation n'a absolument pas permis de freiner la destruction. Citation, « La loi devait être conçue pour que les gens se détruisent moins, parce que la compensation aurait un coût dissuasif. Mais ça reste peu coûteux pour un promoteur de prendre un site avec des milieux humides et de les détruire. » Fin de citation. Qui plus est, les fonds disponibles seraient insuffisants à supposer qu'on puisse un jour recréer ou restaurer davantage de milieux humides. Citation, « Les coûts de la restauration sont beaucoup élevés, plus que ce qui avait été prévu. Si on veut compenser la même superficie, il n'y aura pas assez d'argent dans le fonds. Laisse tomber Stéphanie Pellerin. » Un point de vue que partage Monique Poulain, professeure affiliée à l'Institut en environnement, développement et société de l'Université Laval. Cette dernière insiste aussi sur le rôle crucial que jouent les espaces naturels perdus. Citation, « On ne freine pas la perte de milieux humides, alors qu'ils jouent plusieurs rôles, notamment pour la régulation de l'eau. Ce sera un enjeu de plus en plus important dans un contexte de changement climatique. » Fin de citation. Directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, plaide pour une réforme urgente de la législation. Citation, « Il faut donner un réel mordant à la loi. Le gouvernement doit inscrire clairement dans la législation que l'ordre « éviter, minimiser, compenser » est obligatoire avec des balises strictes et applicables. Les promoteurs responsables pourraient être tenus de réaliser eux-mêmes les projets compensatoires comme c'est exigé en vertu de la loi sur les pêches au fédéral. Fin de citation. Au cabinet du ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, on affirme que, citation, « Le gouvernement et les municipalités travaillent activement pour atteindre l'objectif d'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. » Fin de citation. Une évaluation est aussi prévue en 2017. Citation, ce bilan sera fait en 2027. Avant cette échéance, il serait prématuré d'engager un chantier législatif majeur. Notre priorité demeure la mise en œuvre complète des outils existants pour protéger ces milieux essentiels. Fin de citation. En 2023, le commissaire au développement durable avait relevé plusieurs lacunes dans l'application de la loi. Deux ans plus tard, le gouvernement promet un bilan dans deux ans. C'était « Pas de répit pour la disparition des milieux humides », un texte d'Alexandre Schill publié dans Le Devoir du 8 décembre 2025.